On va causer acouphène avec un des membres de l'équipe de l'Institut Raymond Devoir. Ils sont trois psychologues avec moi, Stéphane Duval. Bon, d'abord, Stéphane est au programme adulte à l'Institut. Et c'est vrai que l'acouphène est peut-être parfois sous-estimé dans ses conséquences, parfois surestimé si vous avez lu L'homme qui entend siffler une bouilloire, ce livre de Tremblay qui nous montre comment ça peut être pénible à vivre que cette réalité de l'acouphène. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Je vais vous inviter à vous rapprocher un tout petit peu. Et je disais, ça peut être pénible. Ceux qui vont dans votre bureau, est-ce que c'est parce qu'ils trouvent cela pénible ou parce que c'est un nouveau phénomène et ils se demandent simplement quoi faire pour passer au travers? Parce que, à ce que j'en sache, ça ne se guérit pas, l'acouphène.
Effectivement, l'acouphène ne disparaît pas. Là, vous avez opposé deux extrêmes, là, le pénible et celui qui se pose de simples questions, mais vous pouvez imaginer que c'est un continuum. Alors, dans l'adaptation, un phénomène comme ça, il y a plusieurs réactions qui sont très personnelles à chacun.
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que, bon, offrir une oreille, c'est certain,
Oui.
pour aider la personne à vider le trop-plein, mais quel genre de... Est-ce que vous êtes apte à donner des trucs ou c'est simplement à apprendre à vivre avec ce son permanent-là?
Oui, bien effectivement, notre approche, c'est d'aider les gens à apprendre à vivre avec ce son. Et tantôt, vous avez mentionné une équipe. Effectivement, on est une équipe avec d'autres professions, dont les audiologistes. Et évidemment, on commence toujours par expliquer aux gens c'est quoi en fait qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qu'ils entendent, pourquoi ils l'entendent. Et au fur et à mesure des explications, on voit si la personne a déjà peut-être des moyens pour vivre avec. Hein? Tantôt, on parlait avant l'émission, vous me disiez que vous-même, vous aviez développé des trucs. Alors, ça peut arriver très souvent que les gens ont juste besoin qu'on leur confirme ou qu'on valide ce qu'ils ont développé comme moyen. Dans d'autres circonstances, on a besoin de travailler un petit peu plus et d'approfondir le travail psychologique pour aider ces gens.
À quel point, bon, mes acouphènes, parce que je fais partie du 10% de la population qui est atteinte, mes acouphènes ne m'empêchent pas d'entendre. Ils m'empêchent peut-être d'entendre le minu détail. Et particulièrement, je peux jamais entendre le silence. Ceux qui vivent ça intensément, ça peut affecter jusqu'à quel point?
Ben, peut-être juste corriger dans ce que vous venez de dire. Vous dites ça vous empêche. L'acouphène n'empêche pas d'entendre. Hein? C'est la perception des sons, c'est où est-ce qu'on met notre attention, en fait. Si une personne a de la difficulté à entendre, c'est possible qu'elle ait une perte auditive. Et à ce moment-là, on va parler chez beaucoup de gens un début là, de perte auditive. Chez 80% des gens qui disent avoir des acouphènes ont une perte auditive qui est diagnosticable. Alors, la faute, ce n'est pas l'acouphène, mais bien la perte auditive.
OK,
Oui.
mais lorsque, supposons, je veux entendre la petite contrebasse loin, loin, et que j'entends mon acouphène plus fort que la contrebasse, c'est pas vrai de dire que j'entends mal la contrebasse?
En fait, si vous avez, moi je connais pas votre
Oui, non, je
situation, mais
comprends.
si vous n'avez pas de perte auditive, on est plus dans les enjeux de où est-ce qu'on porte notre attention.
OK,
Alors, si
OK.
on porte notre attention sur l'acouphène, on est peut-être moins à l'affût de la
Concentré.
contrebasse,
Oui.
effectivement. Là.
OK. Lorsque, par contre, je dis que je n'entends pas le silence, je ne sais pas si le silence peut s'entendre, là, mais ce sera une question à
Ben,
débattre un jour.
en fait, c'est une définition parfois de l'acouphène. Donc, l'incapacité à percevoir le silence, ça peut être une définition de l'acouphène.
Bon, c'est parfois des sifflements, c'est parfois des bruits. Hein, contrairement à un son où on peut mettre une note, un bruit, c'est comme, bon, un toc, on ne peut pas mettre une note. Y a-t-il d'autres formes d'acouphènes?
Oui, il y a plusieurs formes. Il y a des vrombissements, donc plus graves. Des gens qui peuvent entendre des clochettes. Tout à l'heure, vous faisiez référence au sifflement d'une bouilloire. Donc, il faut voir que l'acouphène, le système auditif, au fond, on a l'impression que ça se situe au niveau des oreilles, mais c'est un ensemble de structures dans le cerveau qui nous permet de percevoir. Hein? D'ailleurs, c'est vrai, ça, ce que je vous dis, pour tous les cinq sens de notre corps. Donc, faut toujours garder en tête que le cerveau attribue un sens aux différentes perceptions, que ce soit visuelles ou sonores. Tantôt, vous avez parlé, peut-être avant la pause, avant de rentrer en onde, des émotions. Mais les émotions, ils peuvent être impliqués dans le sens qu'on va donner au son.
Ouais. Mais dites-vous que l'acouphène est, somme toute, un phénomène psychosomatique? Parce que semble-t-il que ce n'est pas dans l'oreille, mais dans le cerveau.
C'est dans le cerveau. Par contre, on ne connaît pas nécessairement les causes. Alors, nous, en psychologie, ce qu'on fait, comme je vous ai dit, on aide les gens à vivre avec. Mm-hmm. On essaie de voir quelles sont mes réactions émotionnelles face à ce son qui est intrusif dans ma tête et comment est-ce que je peux vivre avec. Et donc, on n'invalide pas la personne. De toute façon, on ne peut pas aller vérifier si c'est vrai. Hein. Donc, on accepte d'emblée ce que la personne nous dit et on travaille avec elle à trouver une façon de s'y habituer.
En conversation avec Stéphane Duval, qui est un des membres de l'équipe, il est psychologue à l'Institut Raymond Devoir. On discute acouphène. Les gens arrivent dans votre bureau en moyenne à quel âge?
C'est certain qu'on a une clientèle qui est plus près du 45-50 ans, effectivement. Mais l'acouphène peut survenir à n'importe quel moment.
Oui. Moi, j'étais petit, mais je ne savais pas ce que c'était. Mm-hmm. Je croyais que tout le monde avait ça. Jusqu'à ce que plus tard, j'apprenne quelle était la définition, puis j'ai compris que c'est ce que je vivais. Comment se fait-il qu'on ne s'en préoccupe pas avant, en moyenne, 40-45 ans?
Je ne sais pas si c'est une question d'âge, mais effectivement, il peut y avoir des points tournants dans la vie qui fait qu'à un moment donné, on prend conscience de ce son-là et on se sent dérangé, on se sent irrité. Et c'est là qui est intéressant en psychologie, c'est de voir qu'est-ce qui se passe présentement dans la vie de la personne qui peut faire en sorte qu'on est plus vulnérable ou moins tolérant à ce genre de phénomène.
Donnez-moi peut-être un petit raccourci, là, mais une façon que la personne pourrait justement placer sa concentration ailleurs.
On va parler entre autres de toutes les techniques de masquage. Hein. Si, par exemple, vos auditeurs se concentrent sur notre conversation, c'est sûr que là, on parle d'acouphène, peut-être que ça leur fait penser à leur acouphène.
Ouais.
Mais si on parlait d'un autre sujet, vous et moi, leur attention va être portée effectivement sur quelque chose qui les intéresse. Et donc, c'est ce qu'on va appeler de la diversion. Tout simplement la diversion mentale. Mm-hmm. Voilà.
Est-ce que c'est justement le problème, c'est que les gens ne se concentrent que sur ce qui ne va pas plutôt que de se concentrer sur ce que l'oreille permet d'entendre?
Je ne suis pas certain de saisir la question.
Est-ce que la difficulté, finalement, c'est que les gens se concentrent trop sur l'acouphène plutôt que de se concentrer sur les autres sons?
Effectivement, il peut y avoir une tendance chez certaines personnes très anxieuses à voir l'acouphène comme étant le grand ennemi intérieur. Et le fait de se concentrer trop n'aide en rien, effectivement. D'ailleurs, en psychologie, on est en train de faire un certain lien, entre autres, avec les études sur les personnalités qui sont plus obsessionnelles compulsives. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme. Mm-hmm. Donc, cette espèce de réflexe mental, de focusser sur quelque chose et d'obséder, ça peut effectivement être quelque chose qu'on doit travailler en psychologie.
Donc, il pourrait y avoir presque, on pourrait appeler ça des TOC mentales?
Oui, mais on pourrait appeler ça comme ça.
OK. Mm-hmm. Et comment savoir l'intensité pour vous, là, lorsque vous écoutez un patient? Est-ce que c'est mesurable, un acouphène, par un audiologiste?
Les audiologistes ont certaines techniques pour mesurer. Par contre, nous, à l'Institut Raymond Devoir, on ne préconise pas cette approche-là parce que d'emblée, notre objectif, c'est d'apprendre à mieux vivre avec et non pas... On accepte d'emblée ce que la personne perçoit et on n'a pas besoin d'approfondir nécessairement la force du son.
Mais contrairement à quelqu'un qui est, supposons, malentendant versus sourd ou semi-voyant versus aveugle, là, on peut comprendre l'impact et les conséquences. Alors que lorsqu'on se fie à la mesure que porte le patient, qui lui-même peut être, est erroné à cause dans sa quantification, là,
oui.
Parce que lui-même est tellement pris dans l'émotion, c'est vous voulez pas non plus juste suivre l'émotion. Peut-être que parfois, vous voulez dire, « Ouais, mais écoute, Luc, je sais, là, c'est difficile, mais t'as pas le choix, là. » T'sais, dans le sens, vous voulez peut-être brasser Luc un peu.
Oui. Ben, en fait, justement, la mesure que nous avons une mesure validée, c'est une mesure du dérangement. Alors, c'est de voir jusqu'à quel point la personne est dérangée, jusqu'à quel point il y a un impact dans son quotidien. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, à trouver des moyens pour que l'acouphène soit moins dérangeant et qu'il y ait moins d'impact. C'est vraiment notre approche. Ouais. Oui.
Je suis curieux, Stéphane, est-ce que les gens que vous recevez dans votre bureau ont tous des acouphènes ou vous travaillez également avec d'autres difficultés auditives?
Oui, bien c'est ça, notre clientèle à nous peut avoir une perte d'audition, okay. Et sans nécessairement être dérangée par l'acouphène. Alors, à ce moment-là, on va aider la personne dans son adaptation au handicap.
Oui. OK. Ouais. Donc, vous êtes un psychologue qui travaillait avec, l'oreille et tout ce que ça implique lorsqu'elle fonctionne moins bien.
Exactement. Okay. Notamment, une grande problématique qu'on pourrait en reparler ici si vous êtes intéressé, mais l'intolérance au son, l'hyperacousie, la phonophobie. Donc, ça peut être effectivement une autre problématique importante là, chez notre clientèle.
Ben, je ne sais pas si ça se passera avec vous, mais je sais qu'on a quatre sujets avec l'IRD d'ici la fin de la saison.
Oui.
Il en reste quatre. Vous étiez le premier de cinq. Alors, il y a des chances que ça fasse partie. Tout ça est déjà coordonné. Merci beaucoup, beaucoup d'être passé.
Ça me fait plaisir.
Ben, moi
j'espère
aussi.
Que ça a répondu un peu à vos interrogations.
En tout cas, j'espère que ça a désamorcé. Mais en même temps, on ne veut pas prendre ça à la légère, particulièrement si vous n'en avez pas et que certaines personnes vous parlent des difficultés qu'ils vivent, ben j'espère que vous comprenez un peu mieux.